Chapitre 12. Si Roger s'était fait une loi qu'il observait strictement de refuser toutes les invitations de ses anciens amis, il y en avait d'autres, lui venant de personnes placées en dehors du cercle de son intimité qu'il ne pouvait décliner. Celles de ces invitations qui lui étaient arrivées les premières lui étaient venues du duc et de la duchesse d'Arverne. Au grand étonnement de ses nouveaux collègues, il avait pris au sérieux ses fonctions d'attaché et, très régulièrement, il s'était rendu au ministère. Au bout de quelques jours, le ministre l'avait fait appeler. « On me dit que vous venez tous les jours à votre bureau. » Roger avait répondu que l'exactitude était la seule manière de reconnaître la bienveillance dont le ministre avait fait montre à son égard. J'avoue que vous m'étonnez un peu, dit le duc d'Arverne en souriant, car je m'étais imaginé que, comme quelques-uns de vos collègues, vous ne mettriez les pieds au ministère qu'une fois dans votre vie, le jour de votre présentation. Mais je suis heureux de vous voir dans ces dispositions de travail, et je vous promets de ne rien négliger pour les entretenir. Et, fidèle à sa promesse, le ministre lui avait très souvent donné des travaux peu importants que Roger pouvait remplir, et plus souvent encore, il l'avait fait appeler tout simplement pour causer. Le premier jeudi qui avait suivi son retour à Paris, il avait été faire une visite à la duchesse et il avait été reçu par elle avec plus d'affabilité encore peut-être qu'il ne l'avait été par le duc. Ça avait été des compliments sans fin sur sa victoire du dimanche, des regrets de n'avoir pas pu le féliciter tout de suite, non seulement sur cette victoire, mais encore sur sa résurrection. Et alors, il avait fallu qu'il expliquât comment il avait pu vivre pendant 2 ans et demi dans un château de Provence. Seul ? Seul avec un professeur. Elle avait souri d'un air de doute. « Vous avez donné tout ce temps au travail ?»« Tout ce temps. » Le sourire s'était accentué. Vous aviez déjà commencé à travailler avant d'aller en Provence, car on m'a raconté que vous aviez habité la vallée de Montmorency avant votre départ. Peu de temps, c'était trop près de Paris, et c'est pour cela que je me suis sauvée en Provence. Sauvée ! Les hommes se sauvent donc quelquefois ? Quand il le faut. Elle l'avait pressé, et il avait eu la plus grande peine à échapper aux interrogations plus ou moins détournées qui, toutes, tendaient à lui faire raconter ses amours avec Raphaël. Ça n'avait pas été seulement d'histoire d'amour qu'elle s'était montrée curieuse, ça avait été aussi d'histoire de famille. On disait qu'il était mal avec son grand-père, le comte de Condrieu-Revel. Aussi mal que possible. Vraiment ? Comment donc avait-il pu se brouiller avec un excellent homme comme le comte ? Sur ce point, Roger avait évité de répondre, ne voulant pas se plaindre et ne voulant pas davantage accuser. Aux yeux de tout le monde, M. de Condrieu était son grand-père, il devait donc ne parler de lui qu'avec réserve, ou au mieux n'en pas parler du tout. Ce qu'il avait fait. La duchesse avait insisté, il ne s'était point rendu. Alors, prenant un ton d'autorité affectueuse, elle avait déclaré qu'elle ferait cesser cela. Sans répliquer, il s'était retiré, disant que la duchesse était vraiment trop curieuse et qu'elle se mêlait avec trop de sans-gêne de ceux qui ne la regardaient pas. Le lendemain, il avait reçu une invitation à dîner pour le jeudi suivant, et la première personne qu'il avait aperçue après avoir salué la duchesse, ça avait été M. de Condrieu, debout dans un coin du salon où il s'entretenait avec un personnage du monde politique. Son premier mouvement avait été de gagner la porte et de partir, mais c'eût été une faiblesse doublée d'une sottise, il était resté. Évidemment, il devait rencontrer M. de Condrieu dans le monde, le mieux était donc qu'il s'habituât à sa vue. Si violent, si tumultueux que fussent les mouvements de son cœur chaque fois qu'il le regardait, il se calmerait peut-être un jour. Ce fut à quoi il s'essaya pendant le dîner. Placé assez loin du comte, il pouvait le regarder sans avoir l'air de le provoquer ou de le braver. Il le regarda donc franchement en face, la tête haute, s'amusant à faire détourner les yeux du comte quand ceux-ci rencontraient les siens. Ce ne fut pas son seul plaisir, il en éprouva un très doux à remarquer et à noter les laideurs qui se montraient dans cette grosse tête en poire. Il n'avait pas attendu cette heure pour trouver que M. de Condrieu était laid, et depuis son enfance, il s'était dit bien souvent qu'on était malheureux d'avoir ses yeux fuyants, ses fortes mâchoires qui semblaient toujours prêtes à mordre, ses bas joues pendantes, ce teint jaune et terreux, ses gestes hésitants, cette lourde démarche d'un vieil éléphant, cette parole annonnante. Mais jamais il ne se l'était dit comme maintenant. Autrefois, c'était avec remords et avec honte qu'il voyait ses laideurs, qu'un petit-fils, pensait-il, n'aurait pas dû apercevoir chez son grand-père. Tandis que maintenant, c'était avec joie, avec bonheur, avec fierté qu'il les étudiait. Ce vieux gredin ne lui était rien. Il pouvait lui donner tout bas les noms les plus infâmes, le charger de tous les crimes. Quelle différence entre cette vilaine tête et celle du marquis de Varages, si belle et si noble, sur laquelle se lisaient toutes les qualités. Ce fut à peine s'il parla et répondit à ses voisins de table. Jamais ceux qui le connaissaient ne l'avaient vu aussi silencieux, et cependant il avait l'air tout joyeux, tout heureux, déjà diplomate. Ce fut ce que la duchesse remarqua, et elle lui en fit l'observation dans le cours de la soirée, à un moment où, étant libre, elle l'appela près d'elle. « À la façon dont vous avez regardé M. de Condrieu en entrant, dit-elle, j'avais craint que cette rencontre avec lui ne vous contrariât. Mais vos regards se sont adoucis pendant le dîner. J'en suis très heureuse. » Et elle le conduisit dans un boudoir qui faisait suite à un petit salon. Là se trouvait le comte de Condrieu, assis dans une attitude de ruminant au repos. « Voici pourquoi j'ai été heureuse de l'adoucissement de vos regards, » dit la duchesse à mi-voix. Roger eut un mouvement de répulsion qui secoua son bras. « Cela vous contrarie ? » dit la duchesse. « Au contraire, et je vous remercie de m'avoir ménagé cette entrevue. » « Voici monsieur le duc de Nauruze, » dit la duchesse en s'adressant au comte, « qui me remercie de l'amener près de vous. Je vous laisse ensemble. » Il s'établit un silence. Tous deux étaient debout en face l'un de l'autre, mais ils évitaient de se regarder. Le comte, le premier, prit la parole. « Je suis heureux, tout à fait heureux, mon cher petit-fils. » Incapable de se contenir, Roger jeta ses deux mains en avant, comme s'il voulait lui fermer la bouche. « Ah, ne m'appelez pas de ce nom » s'écria-t-il sourdement. M. de Condrieu recula, abasourdi. « Et pourquoi donc ? » balbutia-t-il. « Ne suis-je plus votre grand-père ?» La tentation fut forte, si violente que Roger ouvrit les lèvres pour dire « Non, vous ne l'êtes pas !» Sans qu'il eût cherché ni fait naître, l'occasion s'offrait à souhait de proclamer la vérité et se débarrasser enfin de cette odieuse, de cette honteuse parenté. « Je ne suis pas votre petit-fils. Votre sang ne coule pas dans mes veines. Ma mère n'était pas votre fille. » Quel triomphe ! Quelle vengeance ! Il se lavait, il se purifiait. « Vous voyez bien qu'il n'y a rien de commun entre nous, puisqu'on n'a jamais eu à me reprocher un acte de bassesse ni de lâcheté. » Mais n'en serait-ce pas un que de jeter ainsi le nom de sa grand-mère et de se servir dans son intérêt pour sa satisfaction d'un secret que le hasard seul lui avait livré? Était-il maître de ce secret? Pouvait-il, devait-il exposer au mépris, à l'injure ou à la raillerie la mémoire de sa grand-mère? Dire « Je ne suis pas votre petit-fils », alors même que cela était vrai, n'était-ce pas se rapprocher de M. de Condrieu, disant à Christine « Vous n'êtes pas ma petite-fille ?» Ses lèvres se fermèrent. Ce fut seulement après quelques instants qu'il se rapprocha de M. de Condrieu, qui, devant l'attitude embarrassée de Roger, s'était redressé. « Je ne reconnais pas pour mon grand-père, » dit-il à mi-voix, mais en articulant ses paroles, en les martelant, « je ne reconnais pas l'homme qui a combiné un moyen comme celui que vous avez eu l'infamie d'inventer pour pousser Christine au couvent. C'est parce que Madame la Duchesse d'Arverne m'a fourni l'occasion de vous dire cela en face que je l'ai remerciée tout à l'heure, Elle m'a permis de vous jeter au visage ces paroles d'indignation et de mépris que mes regards vous ont lancées l'autre jour à la chapelle. » Un moment écrasé par cette explosion, M. de Condrieu avait peu à peu redressé sa haute taille en prenant un air de dignité outragée. « Vous oubliez à qui vous parlez !» dit-il. « Non, au plus fourbe, au plus misérable, au plus lâche des hommes, sans honneur et sans cœur. Taisez-vous ! C'est à vous de vous taire, ou bien, au lieu d'étouffer ma voix, je l'élève, et tous ceux qui sont là dans ces salons accourront pour être juges entre vous et moi. Voulez-vous que je les appelle ? Voulez-vous que je leur dise ce que vous avez fait ? Vous êtes un vieillard, un personnage dans l'État. Vous portez au cou et sur la poitrine tous les signes de l'honneur. Moi, je ne suis rien qu'un jeune homme. Vous verrez lequel de nous deux ils condamneront. Mais c'est inutile, car voilà que vous baissez la tête tant vous avez peur, espérant aussi peut-être me toucher par votre humilité, après n'avoir pas pu m'intimider par vos airs de dignité. Allons, rassurez-vous, monsieur le comte, et relevez la tête. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai vengé celle que j'aime comme une sœur, et c'est assez. Je n'ai voulu vous parler que d'elle. Pour moi, je n'ai rien à vous dire, si ce n'est cependant que je vous défends d'invoquer ce titre de grand-père dont vous vous parez. Vous voyez bien qu'il ne vous protège pas. Contentez-vous de le faire valoir devant les tribunaux, là où il pourra servir vos intérêts. Mais entre nous, il n'existe plus. Vous voyez bien que je ne suis pas votre petit-fils, puisque je ne vous continue pas. Je ne vous reconnais pas, je vous renie. » Quand Roger rentra dans le grand salon, ému, tremblant, la duchesse, d'un signe, l'appela près d'elle. Il eût voulu s'échapper, mais comment ? Il alla près d'elle. « Eh bien ! » demanda-t-elle à voix basse. « Comment l'entrevue s'est-elle passée ? » « Excusez-moi, » dit-il, « je suis un peu ému. » Elle le regarda. « Il est vrai. Eh bien, à demain. Je serai chez moi à 5 heures. Venez, vous me conterez cela. »